There is this thing.
Do you realize do you realize
consciousness is affected?
There is this thing
on.
There is this thing going on.
Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
To the March 4th, 2021 Pandemic Red Zone edition of Nolan's Legal Radio, part of the CKUT, Community News Collective's Off the Hour and No Borders Media. We're at 90.3 FM in Montreal, www.ckut.ca on the web. We are grassroots community radio on the island of Montreal. We have two interviews lined up on today's show. Later on, we feature an interview with Canahus Manuel, an Indigenous land defender who is part of the Tiny House Warriors, resisting the Trans Mountain Pipeline on the territory of the Shmukmuk in the interior of British Columbia. But first up, an interview in French with Jennifer Babette, a local anti-police brutality activist and also a frontline worker with street-involved folks in Montreal. We speak with Jennifer for her perspective on the situation with homeless and other street-involved people in Montreal in the context of the pandemic and also in the context of the current curfew. We also anticipate the upcoming demonstration against police brutality on March 15th, the 25th International Day Against Police Brutality. We go to that interview right now.
Je suis sur la ligne avec Jennifer Babette.
Salut
Jennifer. Salut Babette. Jennifer est une militante ici à Montréal depuis longtemps, active contre la brutalité policière, mais aussi quelqu'un qui a une perspective sur la situation avec les personnes sur la rue ou impliquées dans la rue, les itinérants, etc. Jennifer, bienvenue à No Borders Media et Radio Personnes Illégales.
Merci beaucoup.
Jennifer, parlez un peu de le travail quotidien que tu fais aujourd'hui ou dans les mois récents, surtout depuis la pandémie.
OK. Ben, en fait, je travaille auprès des personnes en situation d'itinérance. Donc, au cours, je dirais, depuis le début de la pandémie, j'ai perdu mon travail à cause de la COVID, fait que je me suis réinventée dans le communautaire. Et puis, j'ai commencé en conduisant une navette, un genre de minibus pour amener les personnes en situation d'itinérance dans des refuges pour pas qu'ils dorment dehors. Et puis là, plus récemment, depuis 2-3 mois, je suis rendue intervenante psychosociale auprès de eux et elles.
Et parler de les deux, trois choses qui sont les plus importantes depuis la pandémie concernant les personnes avec qui tu travailles?
Ben, en fait, depuis le début de la pandémie, c'est sûr que c'est très, très dur pour ces personnes-là parce que c'est des personnes vulnérables. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé physique et mentale. Fait que c'est sûr que la pandémie, ça joue beaucoup sur leur et leur morale et sur leur santé. Parce qu'on s'entend, ces personnes-là, s'ils rentrent en contact avec une personne qui a le COVID, ils ne peuvent pas s'isoler chez eux pendant 14 jours. Ils ne peuvent pas. Et fait que c'est sûr que c'est super problématique. Puis si on voit plus récemment avec le couvre-feu, ben là, je pourrais dire que c'est vraiment next level parce que là, ces personnes-là sont super judiciarisées par la police. Puis même si il y a eu la Cour suprême a tranché que le couvre-feu était exempté pour les sans-abri, ben je peux te garantir que ces personnes-là continuent de se faire achaler par la police, fait qu'ils s'entassent dans des refuges. Et puis là, les refuges débordent, ça n'a plus d'allure, il n'y a plus de place dans aucun refuge. Et puis, c'est juste que ça joue aussi beaucoup sur la santé mentale parce que ces personnes-là sont tannées déjà, qui se font judiciariser par la police à tout bout de champ, hors contexte de pandémie, hors contexte de couvre-feu. Là, avec le couvre-feu, c'est 100 fois plus pire parce que ces personnes-là sont habituées de boire leur whisky puis leur grosse bière dans un parc, puis que là, ils peuvent pas parce qu'ils se font comme constamment encore plus achaler. Fait que là, ils s'entassent dans des refuges que ils veulent pas, ils et elles ne veulent pas nécessairement être. Et puis là, ça fait que moi depuis le jour 1 du couvre-feu, dans les shelters où c'est que je travaille, j'ai vu une différence flagrante. Il y a plus de batailles, il y a plus de tensions. Fait que c'est ça. Fait que c'est les principaux trucs, que j'ai remarqués par rapport à ces personnes-là depuis le début de la pandémie.
Une grande nouvelle que tout le monde a entendue, c'est le mort de Raphaël Napa-André. Il était mort après le couvre-feu dans une toilette chimique. Il n'a pas eu la chance d'entrer, mais il ne peut pas entrer dans le refuge Open Door parce que c'est fermé dans ce moment à 9 heures. Alors, il était trouvé décédé. Et puis, après ça, comme tu as mentionné, il y a la décision de cour supérieure qui interdit le couvre-feu pour les sans-abri. Et je pense dans la tête de beaucoup de gens, ils pensent que ça s'est réglé maintenant, que ça n'affecte pas les sans-abri. Tu viens de parler que ce n'est pas vrai, mais parlez un peu plus de qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, une mort comme la mort de Raphaël André, c'est l'extrême, mais c'est quoi la situation quotidienne? Parce que si je comprends bien, toi, tu as le droit d'être sur les rues après le couvre-feu parce que tu fais un travail pour aider les itinérants. Oui. Alors, parlez de la situation sur les rues de Montréal.
Ben c'est ça. La mort du jeune homme, c'est un très bon exemple. C'est ça qu'on il faut tout le temps qu'on aille à l'extrême hein, pour que la ville, pour le gouvernement se réveille puis applique des mesures. Tu sais, puis la situation avec Open Door, j'ai besoin de la souligner parce que je veux vraiment donner les détails de qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui sont pas au courant, qui vont écouter. Puis c'est juste qu'il y a eu une éclosion de COVID à Open Door, qui est un shelter qui accueille principalement les Autochtones. C'est un shelter qui est ouvert 24 heures sur 24 généralement. Et puis là, ils ont dit, la ville, la santé publique a dit, bon, ben là, il y a une éclosion de COVID, fait qu'il faut que vous fermez à partir de 21 heures. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben c'est exactement ce que ça dit. Il ne pouvait pas aller à son shelter. Puis c'est une personne qui est habituée à aller à ce shelter-là uniquement. Et puis là, c'était pour se cacher de la police qui s'est cachée dans les toilettes qui est décédé. Et puis là, ben oui, à cause de ça, ben là, la santé publique a décidé, ah bon, ben Open Door, vous pouvez réouvrir pendant 24 heures et puis on va mettre une tente au Square Cabot en son hommage. Fait que ça, c'est un truc que je veux vraiment dénoncer, c'est que je suis tannée qu'il y ait toujours, il faut tout le temps qu'on aille à l'extrême limite de quelque chose pour que la santé publique, le gouvernement, la ville se réveille. C'est comme, c'est aberrant, ça devrait pas être de cette façon-là. Puis pour répondre à ta question, moi, je suis dans les rues souvent après, vu que je conduisais la navette, j'étais dans les rues après le couvre-feu. Puis qu'est-ce que je vois, c'est principalement les policiers et policières, ils laissent généralement les voitures tranquilles, mais par exemple, les personnes qui sont dans des parcs, les personnes qui marchent dans la rue, c'est vraiment de l'harcèlement. Puis ça, j'ai été témoin de ça. Puis ça fait que, comme je disais, les personnes en situation d'itinérance, ils sont encore plus judiciarisés. Et puis là, c'est un peu à double tranchant parce qu'il y a aussi, depuis le couvre-feu, il y a beaucoup plus de voitures de police qui arrivent à mon shelter pour amener des personnes en situation d'itinérance, ce que les flics ne faisaient pas avant du tout. Fait que c'est sûr que je dois avouer qu'il y a un tout petit travail qui est fait de leur part, dans le sens qu'il y en a certains d'entre eux qui vont juste accompagner, qui vont amener, donner un lift au sans-abri, au shelter, mais dans le trois quarts du temps, moi, il y en a beaucoup qui arrivent au shelter puis qui ont quand même des amendes puis qui disent on est écœuré, on se dit qu'on est exempté du couvre-feu, mais moi, je viens de me faire chier 45 minutes par un flic qui me faisait chier, tu sais, parce qu'en fait, il faut que tu aies l'air sans-abri. Moi, il y a une femme qui vient à mon shelter, elle n'a pas le look sans-abri, entre parenthèses. Ben elle se fait harceler à toutes les soirs. Les flics savent où la trouver, puis ils s'en vont la faire chier. Puis elle a bien beau dire, non, je suis dans la rue, j'ai pas d'endroit où aller. Puis les flics la croient pas parce que... est habillé avec du linge normal, en parenthèse. Fait que ça, c'est comme vraiment la réalité. Déjà qu'il y avait un profilage social qui était exercé par rapport à ces personnes-là, bien là, ce profilage social-là, il est encore plus pire parce que là, c'est encore le discernement des policiers et policières. Est-ce que je trouve que tu as l'air sans-abri assez pour que je te croie puis que je t'exempte? On est vraiment rendu là.
Et juste pour préciser pour nos auditeurs et auditrices, parce qu'on parle de la mort de Raphaël André, c'était parce que peut-être il y a des gens qui vont écouter cette émission dans plusieurs mois, parce que ça va être... c'était pendant l'hiver, alors une soirée très, très froide. C'est à cause de ça que... Mais on pense que c'est à cause de ça qu'il est décédé.
Oui.
Jennifer, on parle de beaucoup de réalités difficiles, mais comme tu sais bien, quand il y a des difficultés comme ça, il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de lutte, il y a beaucoup de gens qui font d'organisations pour pas juste améliorer la situation, mais pour créer un contexte de dignité pour les gens. Et moi, j'ai remarqué à distance les différents projets. Des fois, comme tu as mentionné, des fois, ça prend des extrêmes pour la ville ou la province ou le gouvernement pour agir. Mm-hmm. Mais je veux que tu parles un peu de ces efforts d'auto-organisation et de résistance aussi. Par exemple, on a vu plusieurs campements ici à Montréal. Je sais que ce n'est pas parfait. Ces campements sont créés à cause des manques de ressources, mais en même temps, c'est une forme d'auto-organisation. Alors, donnez à nos auditeurs et auditrices une idée de... Comme ton effort avec l'autobus, les différents efforts pour réagir d'une façon de base à ces réalités?
Bien, c'est sûr que depuis le début de la pandémie, c'est beaucoup, il y a eu un focus important sur le monde de l'itinérance. Et puis, s'il y a un truc minimum de bon que cette pandémie-là aura apporté, c'est justement qu'il y a de plus en plus de réseaux d'entraide par rapport à ces personnes-là. On a vu le meilleur exemple, c'est le campement Notre-Dame qui a été érigé pendant combien de temps? 8 mois à peu près. Ça a commencé avec une dizaine de tentes, puis à la fin, il y avait 150 tentes. Donc, et puis, des dons, le monde apportait beaucoup, beaucoup de vêtements. Les restaurants, les camions roulottes de bouffe qui ne peuvent pas être sur la route parce qu'ils ne peuvent pas travailler à cause de la COVID, bien, ils débarquaient au campement pour donner de la nourriture gratuitement. Même affaire avec les restaurants qui sont en train de perdre toutes leurs invendus, en fait, à place de jeter ça aux poubelles, ils amenaient ça au campement. Des dons de vêtements, il y avait des piles et des piles et des piles de vêtements. Il y a des organismes à but non lucratif ou juste des personnes qui s'organisent. Puis là, le meilleur exemple, c'est, je peux nommer les Pirates Verts qui sont dans Schlaga Maisonneuve, qu'eux autres, leur mandat, puis ils sont même pas payés là, pour ça. Là. C'est comme 3-4 personnes qui bénévolement ils vont chercher la nourriture partout, partout, puis ils en font de la route. Là. Ils sortent de Montréal pour aller chercher de la bouffe, pour aller distribuer ça et dans les shelters, et dans la rue, et dans les campements. Fait que ça, c'est sûr que les personnes manquent rarement de nourriture, de vêtements chauds, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dons des intervenants psychosociaux, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des vétérinaires qui s'en vont juste maintenant offrir leur aide gratuitement pour ces personnes-là, parce qu'ils l'ont vraiment, mais vraiment pas facile. Puis, c'est vraiment dommage que ça a pris un contexte de pandémie. Je retourne à mon extrême. Ça a pris un contexte de pandémie pour qu'il y ait une sensibilisation plus générale qui se fait auprès de ces personnes-là, mais moi, je vois une entraide de monstre, surtout qu'à ces côté bouffe, des navettes improvisées qui se promènent, qui s'en vont trouver les sans-abri. Est-ce que tu veux que je t'amène dans un shelter? Est-ce que tu veux que j'aille te chercher des couvertures? Tu veux-tu un café? Tu sais? Évidemment, la ville, ça leur a fallu, si je prends le contexte, des campements, parce que c'est pas juste le campement de Notre-Dame, c'est vraiment l'ensemble des campements en plein milieu d'hiver, il y a eu un feu qui a été pris qui a pogné dans une des tentes du campement Notre-Dame. Et bien, je peux te garantir que 48 heures plus tard, Valérie Plante était comme, bon, ben là, ça y est, c'est fini les campements. Et puis, c'est pas juste le campement Notre-Dame qui a été délogé, c'est tout, tous les campements pendant une semaine et demie, deux semaines. Les flics, ça a été une véritable chasse aux tentes. Puis le plus aberrant là-dedans, c'est non seulement les flics puis la ville leur ont enlevé leur maison, ils kidnappaient carrément leur tente, ils prenaient leur tente, puis ils disaient « Ah, ben on va aller entreposer ça dans des containers de la ville, et puis vous allez pouvoir récupérer vos effets personnels et puis vos tentes dans les jours qui suivent. » Et ce n'est pas vrai. La ville a carrément embarré les tentes des gens jusqu'à la fin de la mesure hivernale d'urgence, c'est-à-dire le 31 mars. Fait que là, ces personnes-là n'ont même plus de tentes, n'ont plus d'effets personnels, n'ont plus accès à ça. Puis la ville se dit très sensibilisée par le problème de la situation d'itinérance. Puis qu'est-ce qui n'était pas, si les personnes n'étaient pas physiquement présentes lors du démantèlement des campements, eh bien, on a vu les photos des camions poubelles qui faisaient juste carrément ramasser les tentes, puis ça s'en allait aux poubelles. Fait que c'est vraiment, c'est triste, mais d'un autre côté, c'est ça, il y a encore une super belle solidarité. Si je fais juste, moi, dans les 8 derniers mois, j'ai travaillé dans 4 shelters différents. Et puis, c'est fou la quantité de dons qui arrivent à tous les jours. C'est assez impressionnant, en fait.
Jennifer, Bobette, je veux juste ajouter aussi que apparemment Raphaël André était un résident pour certains temps au campement Notre-Dame.
Oui.
Juste pour donner ce contexte et aussi pour nos auditeurs et auditrices qui n'est pas au courant. Oui, il y a eu une intervention des anti-émeutes. Il y a plusieurs policiers anti-émeutes qui étaient là pour terminer le campement Notre-Dame. Jennifer, tu as déjà mentionné ça, mais oui, ça prend des choses extrêmes comme le mort des gens à la fois pour provoquer une réaction. Et aussi, on sait très bien qu'il y a toutes sortes d'acteurs dans la société qui interviennent avec les sans-abri parce que c'est un enjeu qui est assez mou pour tout le monde. Alors, par exemple, on a des riches de Westmount qui donnent l'argent aux auberges. On a toutes sortes de paliers de gouvernement qui disent qu'ils vont agir. On a des corporations, les grandes entreprises qui disent qu'ils sont pour les sans-abri. On comprend ça. Et je ne veux pas entrer dans une critique de ça, mais je veux entrer dans une critique d'un élément qui est plus et plus présent avec les enjeux, avec les sans-abri ici à Montréal, et c'est la présence des personnes anti-science, complotistes et souvent extrême droite. Et une de leurs façon de parler de ça, en addition de dire « oui, on aime les sans-abri, on veut aider les gens », c'est de dire « il faut aider nos citoyens et pas les immigrants », les choses comme ça. Mm-hmm. Alors, parler de cette dynamique, parce que quand tu es à côté de quelqu'un qui donne des dons aux gens, on ne peut pas critiquer cette personne.
Ouais. En effet.
Et alors, ce n'est pas facile. J'étais à l'intervention de campement et je peux dire qu'un bon 60-75% qui étaient là, c'est des gens progressistes, les gens qui font le travail quotidien. Mais aussi, il y a une bonne présence des personnes d'extrême droite. Et c'était bizarre parce qu'à un certain moment, ils vont scanner des choses. OK, je suis d'accord avec ça. On dénonce la police. Mais en même temps, ils vont dire des choses complotistes qui n'ont rien avec ce qui se passe. Ouais. Alors, comme quelqu'un qui travaille sur la ligne des fronts et ces choses, parler un peu de ton critique de cette présence. Est-ce que c'est correct quand je dis que c'est augmenté? Est-ce que c'est correct pour dire que c'est une chose troublante et inquiétante?
OK. Ben ça, je peux te... Oui, c'est clair que c'est super inquiétant. Moi, je peux te dire une affaire, là. Avant la pandémie, on n'a jamais vu l'extrême droite distribuer des sandwichs aux sans-abri. Jamais, 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 jamais. Mais tu le sais aussi bien que moi, Jaggy, l'extrême droite est tout le temps en manque d'attention et va se servir des enjeux sociaux actuels pour se favoriser, se faire parler d'eux autres. Fait que c'est exactement ça qui est arrivé avec la pandémie. La pandémie a commencé et puis ça a commencé très tranquillement. Le mouvement complotiste s'est formé, l'extrême droite a joint ce mouvement-là, on commence à distribuer des sandwichs tranquillement. Et puis là, moi, je te dirais où est-ce qu'il y a eu un gros boom, c'est justement, comme tu dis, au campement Notre-Dame. Ils ont réussi à aller s'installer au campement Notre-Dame en tant qu'ils sont arrivés là, puis ils ont dit, nous autres, on veut offrir notre aide en tant que sécurité de la place. Faire de la sécurité, toute chose. Fait que là, ils sont arrivés, puis en fait, il y a même le regroupement de masculinistes de droite qui s'appelle les papas.org qui sont arrivés, qu'il y a un des d'autres qui a débarqué avec sa roulotte, sa grosse, grosse Christie de roulotte de riche. Il a été parké sa roulotte au campement. Et puis là, il a passé toute la durée du campement au campement avec avec une grosse écriteau, un gros lettrage sur sa caravane pour faire de la promotion pour les papas. Et puis moi, je vais toujours me rappeler, c'est juste une anecdote, j'ai été au campement, puis là, j'ai été voir la gang là, dans la cuisine, qui s'occupe de la cuisine. Puis j'ai demandé, comment ça que les papas sont là, genre, est-ce qu'ils sont affiliés avec vous autres, est-ce que vous savez, comme, avez-vous déjà parlé avec eux, est-ce qu'ils vous aident, est-ce que, c'est qui, puis là, il était comme, non, c'est pas des personnes en situation d'itinérance, on n'est pas, ils se sont désaffiliés, il a dit, nous autres, on n'est pas affiliés à cette gang-là, ils m'ont carrément dit, genre, si vous voulez aller crever les pneus de la caravane, allez-y, on n'arrête pas de se pogner avec eux autres. Fait que tu vois, parce que là, si on se trouve aussi les médias, TVA, Radio-Canada, ils allaient souvent au campement faire des interviews. Puis à multiples reprises, on a vu cette caravane-là en background avec une belle promotion des papas.org. Puis, fait que ça, c'est comme une petite anecdote. Mais tu sais, qu'est-ce que je voulais dire? En gros, c'est que ça l'a augmenté de plus en plus, mais ces personnes-là vont toujours vont utiliser un enjeu actuel. Et puis là, ils ont dit, bon, ben la pandémie, le focus est présentement sur les itinérants et itinérantes. Fait qu'on va aller là pour faire passer notre message. Puis ils réussissent d'une manière tellement sneaky, tellement slick, parce que c'est comme tu dis, on ne peut pas cracher à une personne. Ben là, cracher en temps de pandémie au visage d'une personne, c'est pas recommandé, mais tu sais, on ne peut pas cracher sur une personne qui nourrit une autre personne. Fait que, tu sais, c'est exactement comme tu dis, c'est super touché comme intervention à faire. Puis c'est aussi, ils sont bons, ils savent comment parler pour essayer de passer un message sans que ça ait l'air trop extrême, mais c'est comme tu dis, hein, eux autres, ils s'en calissent des immigrants et immigrantes, mais c'est ça, c'est soigner notre peuple, soigner, fait que ça revient tout le temps aux souches québécoises, puis ils vont, ce monde-là, là, ils vont pas aller en Ontario distribuer de la nourriture pour les sans-abri, ils vont jamais aller en Ontario, ils vont rester dans leur province. Et puis, fait que c'est ça. Puis, tu sais, s'il y a un truc que je peux dire, c'est que c'est vraiment dommage que le campement ait laissé aussi ces personnes-là envahir carrément le campement en tant que sécurité. Parce que tu le sais, Jaggy, comme moi, ces personnes-là adorent se montrer comme sécurité, faire les gones improvisés. Fait que là, il y avait une super belle opportunité au campement Notre-Dame de faire ça. Puis ça a créé beaucoup de clash, en fait, avec les militants antifascistes. Et puis aussi, beaucoup de personnes du campement qui étaient contre leur présence. Mais il y a du monde au campement qui se sont improvisés boss de la place, qui était un peu main dans la main avec le mouvement complotiste. Et puis, c'est ça l'a juste donné. C'est ça. Ça a été un résultat malencontreux, puis ça l'a clashé à l'expulsion du campement. Je sais qu'il y a eu des clashs entre ces personnes-là puis le mouvement antifasciste. Mais fait que c'est super touché comme problématique par rapport à l'extrême droite qui utilise le contexte de la pandémie pour, encore une fois, passer leur estime message de marde. Mais ça, je suis complètement d'accord que ça l'a beaucoup augmenté. Puis moi, je n'avais jamais entendu parler de personne d'extrême droite qui distribuait de la bouffe aux sans-abri autant avant la pandémie que ça, que maintenant.
C'est sûrement un défi pour les mouvements progressistes, pour la justice sociale, pour les right. mouvements antiracistes. Juste pour continuer ce sujet un peu plus, je veux juste mentionner pour nos auditeurs et auditrices, mais aussi pour ta réaction, Jennifer, juste pour donner quelques exemples de comment ça, l'effet de ça. Moi, j'ai vu des images complotistes de ces gens en train de dire que les sans-abri vont servir comme des expérimentations pour les vaccins, etc., etc. C'est-à-dire, ils encouragent une attitude. Encore, moi, j'ai aucun problème si on veut parler des faits, si on veut parler d'hésitation de vaccins de certaines, OK, ça c'est correct, mais de profiter comme ça, c'est un peu dégueulasse. Et aussi, il y a des levées de fonds par certains groupes extrême droite pour on veut acheter des roulottes parce qu'on a des dons ici à Gatineau et on veut livrer ça à Montréal. Mais, garde, quand moi j'ai des dons et je veux livrer ça, je n'ai pas besoin de faire une levée de fonds pour ma propre roulotte. Il y a une autre levée de fonds pour dire on a besoin de 30 000 $ pour aider les sans-abri et ce n'est pas tout à fait clair. D'où va cet argent? Est-ce que cet argent survit? Puis je peux dire clairement que si tu veux aider les sans-abri avec l'argent, donner au groupe respectueux qui fait des groupes de réputation qui fait ce travail d'une façon long terme.
Ouais.
Mais c'est quoi ta réaction à ces aspects de le rôle de l'extrême droite?
Ben c'est comme je dis, hein, eux autres, ils essayent tout le temps de faire du brainwashing. Puis là, c'est vrai, moi, j'avais complètement oublié cette affaire-là, mais tu sais, c'est ça, là, eux autres, ils disent exactement que les itinérants puis itinérantes servent de cobayes. Je veux dire, à quel point est-ce qu'il faut que tu sois stupide pour dire ce genre d'affaire-là? Ces personnes-là sont des personnes à part entière, c'est des êtres humains qui ont un cerveau comme moi puis toi, puis clairement pas comme eux autres, et puis ils prennent délibérément la décision de « oui, je veux un vaccin », « non, je ne veux pas un vaccin ». Et puis moi, j'étais dans les shelters on a été comme un peu les premiers à recevoir les doses. Et puis j'étais là aux cliniques de vaccination. Et puis il n'y avait pas de brainwashing, il n'y avait pas « ah oh, ben là, il faut que tu fasses le vaccin parce que si, parce que ça ». C'était pas du brainwashing, il y avait le monde de la santé publique répondait aux questions, aux concerns des personnes, mais c'était comme tu veux pas le vaccin, il n'y a pas de problème. Si tu changes d'idée, tu peux nous rejoindre à tel et tel numéro. Mais il faut arrêter de dire tabarnak que les sans-abri, ils n'ont pas de cerveau, puis que c'est des cobayes, puis whatever. Hey man, ils ont tout un cerveau, ils sont capables de prendre des décisions. Puis ça, heureusement, il n'y a pas grand monde. De qu'est-ce que j'ai compris là, dans la population moyenne, monsieur et madame, tout le monde, vu que je disais qu'ils essayent de brainwasher le monde, ça n'a pas bien, bien marché. Parce que là, un moment donné, il faut arrêter. Là. Il y a des astis de limites. Puis là, quand ils sont sortis en grand pour dire que les sans-abri sont rendus des cobayes là, pour la vaccination, il y a beaucoup de monde qui ont back off puis ont fait genre « wow ». Wow! Fait que moi, je trouve, personnellement, mon opinion, c'est qu'ils se sont quand même un peu plantés, qu'ils se sont un peu plantés un couteau dans le pied par eux autres mêmes en sortant publiquement, en faisant ces annonces-là, parce que les seules personnes qui ont réussi à toucher, c'est le monde qui ont déjà touché. C'est déjà le mouvement complotiste. C'est du monde qui était déjà convaincu par leur dire puis par leur faire. Mais pour qu'est-ce qui est de monsieur et madame tout le monde, ils ont heureusement pas vraiment réussi à aller chercher l'opinion publique par rapport à ce sujet-là. Ils ont pas mal fait. Parce que là, c'est rendu du ridiculisme.
Jennifer Barbette, je veux juste terminer avec un dernier sujet. Tu es quelqu'un bien placé de parler de ça, pour faire le lien entre les sans-abri, avec les gens impliqués dans la rue, avec l'extrême droite, avec le couvre-feu. Mais le 15 mars cette année, c'est le 25e Journée internationale contre la brutalité policière. Je sais que toi, tu étais impliqué dans l'organisation de plusieurs de ces journées. Et avec un événement comme ça c'est le 25e année ici à Montréal. Et pour nos auditeurs et auditrices qui écoutent cette émission avant le 15 mars, le rendez-vous, c'est à 17h Metro Park, ce lundi le 15 mars.
Ouais.
quand il y a un événement qui dure pour 25 ans, peut-être il y a des années où les gens disent « Ah, ça devient un peu performatif » ou « On fait ça juste pour faire ça ». Mais honnêtement, Jennifer, Bobette, je te connais comme Bobette, alors je veux dire Bobette. Ouais. Honnêtement, cette année, Bobette, je me sens qu'on a vraiment besoin de cette manif. Nous, à la gauche, nous, les progressistes, nous, qui fait le travail de front ou qui essaie d'aider, des fois de travail invisible, des fois de travail public, mais on était un peu tranquille parce qu'on croit à la pandémie, on croit qu'il faut faire certaines choses. Et en faisant ça, on a laissé beaucoup d'oxygène politique à l'extrême droite, comme on vient de parler, mais pas juste ça, mais ils ont fait des manifs pendant l'été avec quelques mille personnes. Nous, quand on a fait notre grande manif contre le couvre-feu, on était juste quelques centaines, malheureusement, mais c'était un bon début. On a donné tout cet oxygène à l'extrême droite et aussi on a donné beaucoup d'oxygène à la police.
Ouais.
Les gens qui pensent que la police a un rôle très important pour dealer avec la pandémie, qui est complètement fausse. Alors, je te demande ta réaction ou ton point de vue à l'aube de la manif contre brutalité policière qui va passer cette 15 mars.
Je vais t'avouer que pour cette année, je vais t'avouer franchement, toutes les autres années, je savais un peu à quoi m'attendre. J'étais capable de tenter le pouls, tenter le terrain. Là, je vais t'avouer que cette année, je nage complètement dans le mystère. Je vais te dire, je ne sais pas c'est quoi que la tournure de cette manif-là va donner. Dans le sens, pas la manif en tant que telle, mais justement, comme tu dis, toute la sensibilisation a été vraiment dure. On n'a pas pu faire autant de sensibilisation cette année pour les luttes habituelles du 15 mars, parce que justement à cause du COVID. Et puis, le monde, tu sais, d'un côté, tu as les gens qui sont d'année en année, de ce que je comprends et de ce que je vois, le monde ont de moins en moins confiance dans notre service de police. Le monde s'ouvre de plus en plus les yeux face à la réalité de la brutalité et de l'impunité et de la répression policière dans sa généralité. Mais c'est de l'autre côté, de la pandémie, le monde veut respecter les mesures, le monde a peur maintenant de se rassembler. Fait que je vais t'avouer que oui, les enjeux ont toujours été là cette année, je pense plus que jamais, mais moi perso, je sais pas de quoi que ça va avoir l'air, mais côté sensibilisation pour la manif, je vois de plus en plus de partage, on va à la manif, puis c'est beaucoup, je vais t'avouer que cette année, c'est beaucoup dans le milieu communautaire que ça se passe, l'encouragement à aller dans cette manif-là, parce que cette année, c'est le communautaire qui en mange une claque par rapport à la répression policière. Et puis, c'est pour ça que j'aurais beaucoup aimé que le 15 mars cette année, le call-out, le thème soit axé sur le communautaire, mais c'est pas ça qui a été fait, parce que c'est ça que je ressens, c'est dans le milieu communautaire que ça se passe le plus cette année par rapport au 15 mars. Fait que ça, je peux te garantir que tous les organismes communautaires vont se joindre au 15 mars, mais pour ce qui est de la généralité du monsieur et madame tout le monde, parce qu'on voyait, je te dirais, dans les 3-4 dernières années, on voyait le 15 mars de plus en plus de monde qui sont pas ultra gauche, tu sais, du monde plus monsieur et madame tout le monde qui venaient à la manif du 15 mars parce que ils étaient sensibilisés à la cause. Et puis là, l'année passée, ben là, nous autres, on a fait le 15 mars. C'était genre la deuxième journée de pandémie officielle. On n'était vraiment pas beaucoup. On était une centaine de personnes, mais je comprends. Là, l'année passée, c'était un contexte particulier parce que la pandémie venait d'éclater. Personne ne savait à quoi qu'on faisait affaire comme virus par rapport au virus. Mais je pense que cette année, je pense franchement qu'il va avoir un bon turnout. Puis j'espère vraiment que ça va bien se dérouler. Si on pense aussi dans le milieu carcéral, que les cas de COVID sont en train d'exploser et aussi que les gens sont les prisonniers et prisonnières sont confinés pratiquement 23 heures sur 24 dans leur cellule, qu'ils n'ont pas encore le droit au vaccin. C'est comme, ben voyons donc, man, est-ce-t-il? Fait que c'est ça. Fait que, on nage un peu dans le néant pour cette année, mais moi, j'ai un bon feeling que ça va bien se dérouler puis que l'appel va être bon, mais peut-être pas autant au niveau de l'éducation populaire de ce qu'on faisait dans les 3-4 dernières années.
Mais moi, j'ai toujours dit, on organise des manifs pas parce qu'on sait en avance que ça va être un succès ou en avance que ça va être un échec, mais plus parce que ça donne un baromètre où on est comme un mouvement. Alors, je partage cette idée. Puis cette année, on a besoin d'être masqués.
Ouais.
Ça nous aide un peu, ça nous donne un petit avantage.
Exactement. Mais je pense que ça va faire du bien à tout le monde de se rassembler. Je sens déjà qu'il va y avoir une belle rage à cette manif-là avec beaucoup de raisons. Hein. Plus de concerts, plus de rassemblements, plus de festivals, plus de bars. Tu sais, le monde sont confinés carrément depuis un an. Fait que je pense qu'il va y avoir une belle énergie, une belle rage de vivre le 15 mars.
Oui. Alors, juste pour nos auditeurs et auditrices, encore le thème cette année, c'est abolissant la police. La manif sera à 17h, 5 p.m., 17h au Metro Parc, lundi le 15 mars. Jennifer Barbette, merci beaucoup pour nous joindre aujourd'hui sur CKUT, Radio Personnes Illégales et Open Borders Media.
Merci à toi, Jaggy.
You're listening to a Pandemic Red Zone edition of No One's Legal Radio, part of the CKUT, Communities Collectives Off the Hour, and No Borders Media. We're at 90.3 FM in Montreal, www.ckut.ca on the web. We are grassroots community radio on the island of Montreal. We just heard from Jennifer Babette, a local anti-police brutality activist, and also a frontline worker with street-involved folks in Montreal. We spoke with Jennifer for her perspective on the situation with homeless and other street-involved people in Montreal in the context of the pandemic, and also in the context of the current curfew. I'll repeat the info in English about the upcoming demonstration against police brutality in Montreal. It will be on Monday, March 15th, starting at 5 p.m. at Metro Park in Montreal. This will be the 25th annual protest against police brutality in Montreal. But next up, we feature an interview with Kanahous Manuel, an Indigenous land defender who is part of the Tiny House Warriors resisting the Trans Mountain Pipeline on the territory of the Shamakmal in the interior of British Columbia. We go to that interview right now. I'm on the line with Kanahous Manuel. Kanahous is Indigenous land defender, part of the Tiny House Warriors on the territory of the Shamakmal. She, along with many other Indigenous land defenders, are defending their land against the Trans Mountain Pipeline and other incursions onto their traditional territories. Kanahous, welcome back to No One's Legal Radio.
Biked.
It's great to speak with you, Kanahous. And I guess the first thing I want to ask you is if you can situate yourself. We talk about the Tiny House Warriors and these tiny houses, but where are you right now and what's happening on your territory as Trans Mountain is trying to build their pipeline around you?
Well, right now I'm sitting inside a tiny house, and it's one of the largest of the tiny houses. It's has all cedar walls made in a local mill, so it's like really beautiful. And I have 7 puppies just resting beside me by a fire and a wood stove that I have all my dishes there in a pan that's with water heating up so I could do them after I do this call. But I'm calling from Blue River, and it's in unceded Suquamish territory. And I say it's in the heart because it's right in our glaciers. It's right at the headwaters of the Fraser and the Thompson Rivers. It's the home of the mountain caribou that are endangered, and you know, the life source of the home for the salmon, all of these rivers and cold glaciers, tributaries that feed these rivers. This is where I am. And so I'm surrounded by snow-capped mountains, and here in Blue River, there's the river that actually goes through it, Blue River, that actually meets into the North Thompson River. And Blue River's located along Highway 5, the Yellowhead Highway that travels north from Kamloops up to Edmonton and continues from there. But this main stretch of transportation corridor is what the Trans Mountain Pipeline follows. So it's actually a transportation corridor, not just for the pipeline, it's for the highway as well and the Canadian Pacific Railway as well. So it's like, you know, multi-use for all this extraction and transport of stolen resources off of our land, and we see it on a daily basis. Here in Blue River is a significant site of the Trans Mountain because there's a Trans Mountain pump station here. And actually a trial that we had last week via MS Teams and video, me and my sister Mayank were being tried for intimidation on some Trans Mountain security guards that were there at the Trans Mountain pump station when we went to show resistance and do a live feed. It was just me and my twin sister that day, and we were charged with intimidation. So right there here in Blue River is this Blue River pump station that's a part of the construction, but the construction has been stalled since the Christmas break and the delay that happened, the call to stop the construction. It was a voluntary shutdown after Trans Mountain was actually going to give them some stop work orders. And so they had stopped construction on the majority of the sites and said they were going to be back in the middle of January, then February, and they didn't start up until like maybe a couple weeks ago. And there's actually no movement here in Blue River, but there's just word that there's construction in different segments along the line. And the reason why they had stopped it is because there was a death in Edmonton with one of the Trans Mountain pipeline workers there. And then also in Burnaby at the terminal in Burnaby, there was a serious injury, unconfirmed, but it heard firsthand from a Trans Mountain worker is that he had gotten both of his legs severed and cut off. So it's unconfirmed. We need to know exactly what that injury was, but it's just really telling that there is no safety when it comes to pipeline business. And that's our biggest concern, is that these contractors, they're being terminated because of the shoddy work that they're doing on the line, and workers are unsafe. And we're calling, you know, a halt because it goes through all of these major waterways that are so important and crucial for us as Indigenous people. We're salmon people here on the West Coast, whether you live on the ocean and you're from Bella Coola, Nuchalk territory, or Nuchonlet territory. Those salmon, they come up here into the interior of BC to spawn. And that's why it's so important for us to defend these spawning grounds and these birthing grounds of the salmon, because, you know, all Indigenous people here in BC will call the salmon their lifeblood. And without salmon, we die. You know, they want their children and their grandchildren just to even be able to taste that wild salmon. And that's what we're here, and that's what we're fighting for.
Kanahos, there's so many directions I can go in with you in this interview, because there's just so much happening. The legal cases, people who are doing solidarity actions in Vancouver and elsewhere, just the day-to-day grind of maintaining the camps that you guys are maintaining. So, of course, you have a lot of husky puppies on your hands these days, on a more lighter note. But I want to get into the legal stuff recently. And just so our listeners are aware, the Trans Mountain Pipeline is now owned by the Canadian government, which means it's owned by Canadian taxpayers, which means it's owned by so-called Canadians. So there's always, we always have a responsibility for what's happening on the land, on these lands, but even more so when the Canadian government is doing so in our name. So you and your sister have been charged, and I know that during this trial, you've managed to get a community elder recognized as somebody in the court as an expert witness on the ways of the Chemikmaq. So can you speak about that a bit and speak more generally about some of these legal challenges that you're facing?
Yes, it was really hard to even choose whether we were going to represent ourselves or hire lawyers. We were caught up in our Sun Peaks battle in 2001 and knew we didn't want to fall in an injunction case, because we just were losing every single injunction case when they use them to remove us from our lands. And so we tried very hard to stay out of their clutches and their handcuffs. But this time we were targeted, and we were targeted actually 2 weeks later. They had put warrants out for us 2 weeks later, because like I said, we went to do a social media video just talking about the Trans Mountain and showing some of the construction equipment that were on site, and showing that they had hired just happened to be there was like a Native woman there that was hired by Trans Mountain, and this Native woman, it was hired under the Simch Resource Group, and this is where a lot of division and end up happening. You know, all called on by the government because they create these divisions, but they offer the local bands, the local federal Indian bands, money with these mutual benefit agreements. They offer security contracts too. So they hire Simch Resource Group to be the level one security for in and around the pump station. And then the level two security, which was Forsyth Security. They're the ones that had the contract for level two security, and they were securing actually some pipeline drilling that was happening under the North Thompson River of an existing pipe in order to prepare for this new pipe that was going through at that time. And this was at September 2019. And I'm just saying this real quick because I think it's important to note this, that, you know, this Forsyth security guard was a what came out in the trial was he was at 38 years on the RCMP. So they're hiring people with like an extensive, you know, rank, you know, in the RCMP. And now they're the head of these Trans Mountain security teams. And actually the RCMP from the local detachments actually hold rank under these former RCMP. So you can just see how that just plays out automatically, because what came out in the trial is that they weren't even going to charge us. This former RCMP officer ends up writing his own police statement and putting it as a formal police statement. And the lawyers asked him, is that a normal, you know, is that something normal that the police do? And he goes, oh yeah, they do. Well, then how come you didn't do that for the Native woman there? She could have written her own statement, but then the cops came, you know, 8 days later, you know, to get her statement, or 8 or 10 days later after that, the incident, to get the statement showing it wasn't a threat. We weren't there to intimidate. They made these charges up and just politically motivated, fabricated charges after the fact. And the sad thing is like the Crown is the one that chooses to pursue these charges, and that they chose to pursue those charges. And that's where it becomes like a real waste of taxpayers' money, and that's where the Canadian citizens should be, you know, getting upset at their government over, is that they wasted, you know, a whole week of trial for this judge and everything. And what happened was that the Crown had brought in a Simch Federal Indian Band counselor to say that us as Tiny House Warriors didn't have the support or of the local Indian band chief and council to be there. And this is what this council was saying on the stand. You know, as we know, and people who were raised by the teachings of Arthur Manuel will know that Aboriginal title or Indigenous title is collectively held amongst the nation, meaning that federal Indian bands are not proper and rightful title holders, because they're actually, they're paid by the federal government. They get a paycheck by the federal government. If they were to leave that title alone and come with the people, then they would collectively hold title like all of us do to our lands. And when you need, when you're talking about the free, prior, informed consent of Indigenous peoples for Trans Mountain Pipeline, that would need to be got from the collective of our nation and not just one federal Indian band. And this is what the government does. It'll handpick those federal Indian bands to get that consent, which we call a manufactured consent, when the real traditional way of choosing and making decisions on the land would be consensus through a massive council or assembly that would be called in the nation, and which was called by Arthur Manuel before he passed away, and we end up having this. This is what ended up coming out in the trial, and I just got ahead of myself talking about Dr. Janice Billy's testimony. And they end up having a voir dire inside the trial after this Simch Federal Indian Band counselor gave her testimony on behalf of the Crown, is when they, you know, brought Janice Billy in to counter this Federal Indian Band counselor's testimony as a witness. to talk about title and talk about Suquamish law and jurisdiction. And so they had a voir dire just to go over Janice Billy's credentials, go through her whole resume, go through her whole schooling, her PhD, her everything, to show the work that she's done to become that expert. And they even talked about the work that she did with Wolverine, the work that she did with my father, Arthur Manuel, and just building all of this knowledge of our Suquamish law and governance. And they agreed that she was the expert, and then from there went in to be a witness to to be an expert for our case and for Mayuk Manuel and her defense, and her lawyers, Joe Killeran out of Kamloops. And so her defense, you know, that we have a way that we talk to people in our laws and our traditions of shaming. It's like a shaming. So, you know, some of the things that they said were exchanged between the Suquamish land defenders and the Trans Mountain employees, those words end up being into question, including, you know, just different comments about you should be ashamed of yourself. Like even just words like that of the Suquamish land defenders saying that to the workers, those words that were exchanged end up being on trial. Every single word that was exchanged, which was really strange, because you could go on to, you know, the street and you could be driving down in Vancouver and someone cuts you off and you could say, fuck you. Or I don't know if I could say that on your radio show, but they can say some type of profanity, but there was not even really profanity that was being said, you know? And it was so, yeah, it was the defense was Suquamish law and jurisdiction, and that who really has a say to who can be on the territory. And the argument was also that intimidation and the criminal code states that you're actually creating threats to deter someone from doing their lawful work or something like that. You could go look at it, everybody, but it says something like that. And what the lawyer was saying, like Trans Mountain wasn't doing lawful work, because on September 30th, 2019, the Federal Court of Appeal had struck down and said no work actually at that time. And so that was another one of the arguments that came in. But it's so strange that you end up being on this video screen. The judge ends up taking up the majority of your computer screen. And then you see the lawyer and you see everybody on there that they bring on that screen. We would have to be in Clearwater if it wasn't for my lawyer applying for us to be on video, which was a lot better, I guess, during COVID and different things. But one of the things that I just wanted to say is that the Crown, after my sister had went on the stand in her own defense, the Crown cross-examined her, and the Crown end up closing with asking her, what does the two middle fingers mean when you put them up and when you're leaving in the parking lot and you're yelling something? What does that mean? And she goes, oh, you know what that means, my sister says. And the Crown prosecutor says, no, could you please tell the courts what you meant by that? And then she put her two middle fingers up and she said, it means fuck Trans Mountain pipelines. And the Crown said, okay, no further questions. So yeah. that's the feel that happened in the trial.
Just a reminder to our listeners, we're speaking with Kanahos Manuel, who is an Indigenous land defender, a member of the Shamakmok Nation, on the front lines of resistance to the Trans Mountain Pipeline, part of the Tiny House Warriors. Kanahos, what is the actual charge against both you and your sister then?
Intimidation.
Okay. Okay.
Yeah.
Go ahead.
Yeah. And I'm charged with another charge of theft. And they were charging me of theft of the padlock of the gate of the Trans Mountain
station. Well, I mean, as you've already alluded to, aside from these criminal charges that get aimed at you time to time,
and are a huge distraction, but at the same time, they allow you to, you know, to fight back, I guess, and in some ways, and getting the elder of your community, Janice Billy, recognized as an expert witness is a, you know, I guess a tactical victory of sorts. But meanwhile, other Indigenous land defenders are facing these injunctions. One in particular, Stacey Gallagher, got 90 days in jail for defying an injunction. He's out now on appeal, but that's provoked all kinds of reaction. And I guess I want you to speak a bit about the solidarity efforts on the behalf of the Tiny House Warriors, on behalf of pipeline resistors, particularly in the Lower Mainland. There's been an upswing of mainly youth-based organizing. And I guess, Kanoas, you and I are old enough now not to be qualified as youth anymore. So can you speak about that? Because it's really inspiring. And a year after Shutdown Canada, that spirit lives. But at the same time, there's a significant significant repression by the courts and by the police.
Yeah, the youth movement is rising. And the Braided Warriors, made up of Indigenous people impacted by the Trans Mountain all up and down this line from Edmonton all the way down to Vancouver, you know, are standing up in solidarity with Tiny House Warriors and other Indigenous land defenders that are being criminalized. This youth movement that just sparked, off of the Wet'suwet'en resistance. A lot of these young people were involved in the Victoria Youth Legislature occupation. And, you know, we know that when that warrior spirit comes alive and floods through communities, youth are impacted and they become a part of it and, you know, become a part of it in every which way. They start dedicating their lives, and you see which ones are going to dedicate their, I mean, that's how I was inspired, was from the youth movement, and I never stopped, and I've been active ever since. And even from the sidelines, like from up here, even though I'm on the front line, you know, I was at this on the sidelines of all the port blockade and all the, you know, the direct action against these insurance companies. But this is our collective fight. We all know each other. We all work together. And that's the role that now I play as an auntie to the movement, is to be able to like guide and say, this is what I learned from before. One of the things is like, just don't try not to get arrested. Like, that's what I try to say, you know, different things. Like, we got to be creative in our strategies to avoid being locked up into their courts, because we can't fight in their courts, even though we always end up there anyways. It's not a part of our strategy and tactics right now is to do that. And, you know, these young people, they're young, like some of them are, you know, teenagers, and they're standing up and they're saying, hey, this is your job. They're saying, allies, come out, you know, put your bodies in front of us. We're doing this work. We're sacrificing our lives too. And so that's what I saw on their live feeds watching, was, you know, a lot of youth organizing and a lot of looking at other movements, and I encourage all young people to look at all movements and always ask the OGs in the movement to teach me something, anything, give me advice, any advice on what you've learned and what, you know, they're going to make their decisions anyway, but I like what they shook up here in BC these last couple of weeks, and showing people that they're not going to stop. And they say they have the youth energy, and they said they won't stop. And so even from doing like human rights testimonials, going right to like blocking down major intersection into one of the main entrances into the port, and then connecting it with the economic fight, you know, for our lands, you know, that this economic fight is an Indigenous rights fight, you know, linking the transportation and the ports and, you know, the tanker traffic and all of that to why these ports are being targeted, why these transportation corridors are being targeted, you know, as a way to show Canada. You know, that's what Shutdown Canada was all about, was to show Canada, like, no, we can shut down your whole economic system here because you've raped and pillaged and built your economic system to what it is today. You know, you built your transportation corridors through our lands, through our reservations, through our territories. And now you want to abuse us and continue to abuse this power to take more land for this pipeline, then we're going to show you no. We have rights, and we have international rights and inherent rights, and the world is watching you, Canada. You can't act the way you did during Gustavson Lake to us.
Canales, this interview is relatively short compared to the ones we've done in the past, but 2021 is still young. And you've just alluded to, you know, shut down Canada back in 2020 and before the pandemic, that was going to be the main issue of that year in terms of potentially, you know, having a definitive reckoning with Indigenous sovereignty, Indigenous self-determination in the context of pipelines and other resource extraction. But I'm sure we'll speak again soon. And I want to thank you so much for speaking with us again on No One's Legal Radio and No Borders Media.
Thank you, Kukstam.
That wraps up the March 2021 Red Zone Pandemic edition of No One's Legal Radio, part of No Borders Media and the CKUT Community News Collective's Off the Hour. You just heard from Kanawis Manuel, an Indigenous land defender who was part of the Tiny House Warriors resisting the Trans Mountain Pipeline on the territory of the Shamukmak in the interior of British Columbia. And we previously heard from Jennifer Bobette, a local anti-police brutality activist and also a frontline worker with street-involved folks in Montreal. Stay tuned for Upstage.
Good evening. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio, from drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. I'm your host, Sarah Day, recording from home on March 4th, 2021. On tonight's show, my guests. Performer and creator Véronique Raymond on the science of theater.
I love science. My dad is a chemist. Science is part of my life. And I strongly believe in the fact that we need more data around theater to better explain how it contributes to our collective well-being and to the progress in our society.
Mara Tier, a graduating student at the National Theatre School on new show, Everybody.
As this year has progressed and I've seen that how resilient the art world is to any challenge, I'm like, I'll be totally fine. And me and my classmates are going to be really okay because I have done a self-tape where I just got like a table, I stacked a stool in it and a bunch of books and I propped my phone up and pointed a lamp and I was able to make a self-tape. So it was like, I don't know, I'm feeling a lot more hopeful than I think I was expecting.
And Louise Lapointe of Festival de Castellier.
We talk a lot about the theaters and the festival organizers, or it's difficult and we change plan, but the artists are really, really suffering from this because they need to see and meet the public. It's their art, it's the basis of what they create for. That's one of the saddest part of this whole crisis.
We have so